Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, monsieur, bienvenue à l'écoute. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui à la une de l'actualité en ce mercredi 27 décembre 2023. Élections en République démocratique du Congo. Les forces de l'ordre empêchent une manifestation interdite. En Guinée, l'incendie du dépôt de carburant à Conakry est complètement éteint, selon le gouvernement. Israël poursuit ses frappes à Gaza, où la situation humanitaire demeure critique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Mexique pour tenter de trouver une issue aux casse-têtes de l'immigration. Et ne manquez pas non plus vos rendez-vous habituels, la minute de l'économie et la page sportive dans 10 minutes environ. En République démocratique du Congo, un important dispositif policier a empêché la tenue à Kinshasa aujourd'hui d'une manifestation contre le processus électoral, mais interdite par les autorités. Des opposants avaient appelé à une marche contre ce qu'ils qualifient de simulacre d'élection dont ils demandent l'annulation. Le point avec Alexandrine Rolognon.
La police a encerclé le quartier général de Martin Fayoulou, l'un des 5 opposants au président Félix Tshisekedi, qui avait appelé leurs partisans à manifester à Kinshasa pour protester contre les scrutins qu'ils considèrent comme frauduleux. Selon Martin Fayoulou, au moins 11 militants ont été blessés. Le général Blaise Kilimba-Limba, chef de la police de Kinshasa, a de son côté déclaré que 2 policiers ont été blessés par des jets de pierre. L'opposition avait maintenu son mot d'ordre et appelé à se rassembler malgré l'interdiction du gouvernement qui considère que la manifestation mettrait à mal le processus électoral. Le dernier décompte effectué mardi donne à M. Tshisekedi une large avance sur ses 18 adversaires avec près de 79% des quelques 6,1 millions de voix dépouillées. Environ 44 millions de personnes étaient inscrites sur la liste électorale.
La compagnie militaire privée américaine Bancroft Global Development est en discussion avec la République centrafricaine, a-t-elle indiqué, alors que le groupe paramilitaire russe Wagner, implanté depuis 2018 dans le pays, est en pleine réorganisation. Le service de communication de Bancroft a démenti s'être déployé à Bangui, mais a admis des contacts avec le régime du président Faustin Archange Touadéra. À partir de juillet, Bancroft a accepté un cadre pour discuter de possibles activités futures avec le gouvernement de la République centrafricaine. C'est tout, a ajouté le groupe dans un courriel. Ablassé Ouédraogo, ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères, a été enlevé par des individus disant appartenir à la police nationale. Dans un communiqué, son parti politique réclame sa libération immédiate et sans condition. Le kidnapping d'Ablassé Ouédraogo, âgé de 70 ans, a eu lieu il y a 3 jours à son domicile à Ouagadougou. Son parti assure n'avoir aucune nouvelle de lui et personne n'a pu lui parler ni ne sait exactement où il se trouve, ajoute-t-il. En Guinée, le gouvernement indique que l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures du pays est complètement éteint. Le sinistre qui est survenu il y a 9 jours à Conakry a fait 24 morts et 454 blessés. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
D'après un communiqué du gouvernement, les opérations de refroidissement de tous les segments de l'installation pétrolière se poursuivent. Toutefois, la zone du sinistre reste fermée au public pour des fins d'investigation. L'incendie était jusqu'à présent maîtrisé, mais non éteint. Parmi les 24 morts, 11 corps demeurent non identifiés selon le texte. Sur les 454 blessés, 31 sont encore hospitalisés. Pour ce qui est de la qualité de l'air, le gouvernement ajoute que les relevés à Kaloum montrent une amélioration des indicateurs, mais le port du masque reste recommandé. Les autorités ont rétabli samedi la reprise de la distribution d'essence à la rationnée à 25 litres par véhicule, 5 litres par moto et tricycle, avec l'interdiction de servir des bidons. Les camions-citernes ont repris leur circulation sous escorte, surtout en provenance de la Sierra Leone voisine. Un premier recensement avait dénombré 800 bâtiments endommagés et plus de 11 000 personnes affectées directement par l'incendie.
Au Nigeria, le bilan des attaques des villages de l'État du Plateau entre samedi soir et mardi matin s'est encore alourdi à près de 200 morts, indiquent les autorités locales ce mercredi. Il y a pour l'heure 500 blessés et des milliers de déplacés, a déclaré Mande Kassa, le président du conseil du gouvernement de Bokkos. Le président nigérian, Bola Tinubu, a ordonné aux agences de sécurité d'intervenir immédiatement et d'appréhender les coupables après avoir condamné fermement ces attaques dans cette partie du pays où les habitants vivent dans la terreur des attaques des groupes djihadistes et des bandes criminelles. Au Liberia, au moins 15 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un camion-citerne. Beaucoup de personnes ont été brûlées, a indiqué ce mercredi Prince Moulba, inspecteur général adjoint de la police. Le camion-citerne a eu un accident hier et est tombé dans un fossé le long d'une route à Totota, dans le comté de Bang.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais en titre, l'armée israélienne poursuit ses frappes dans la bande de Gaza. La guerre contre le Hamas pourrait durer encore de longs mois, malgré de nombreux appels à un cessez-le-feu pour acheminer l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Les détails avec Eric Manirakidza.
Les combats ne connaissent aucun répit. Des témoins ont fait état de frappes israéliennes de combats au sol à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, mais aussi de bombardements intenses sur les camps de réfugiés d'Al-Maghazi et d'Al-Bureï dans le centre. Dans le nord du territoire palestinien, de violents affrontements ont eu lieu à l'aube dans les villes de Gaza et de Jabalia. La France s'est dite mardi gravement préoccupée par l'intensification des combats et a appelé avec force à une trêve immédiate. L'émir du Qatar s'est entretenu dans la nuit avec le président américain Joe Biden. Les deux dirigeants ont discuté des efforts nécessaires pour arriver à un cessez-le-feu permanent, a affirmé la diplomatie qatari. Près de 2 millions de personnes, soit 85% de la population de Gaza, ont été déplacées depuis le début de la guerre. Ce qui se passe sur le sol palestinien ces jours-ci va au-delà d'une catastrophe, a déclaré mardi soir Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne.
Dans l'actualité également, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est parti à Mexico aujourd'hui pour tenter de trouver des solutions face à un nouvel afflux de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mohamedou Oumfa nous en dit davantage.
Anthony Blinken doit rencontrer à Mexico le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Le secrétaire d'État est accompagné du ministre de la Sécurité intérieure, chargé notamment de la police aux frontières, Alejandro Mayorkas, et de la conseillère à la Sécurité intérieure, Liz Sherwood Randall. La délégation américaine doit aborder avec M. López Obrador l'urgente nécessité de voies d'immigration légales et du renforcement des actions coercitives, selon Matthew Miller, porte-parole du département d'État. Ce déplacement intervient au moment où les élus républicains au Congrès exigent un accord sur l'immigration avec le gouvernement de Biden en échange de leur soutien à une nouvelle enveloppe d'aide pour l'Ukraine. Ces dernières semaines, quelques 10 000 personnes par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des États-Unis, soit près du double des chiffres enregistrés avant la pandémie, et une caravane de milliers de migrants a quitté le sud du Mexique dimanche pour tenter de rejoindre les États-Unis. Débordés par l'afflux, les autorités américaines ont dû fermer des postes frontières pour s'occuper de migrants qui tentent de traverser clandestines.
Des bâtiments de l'armateur CMA-CGM sont revenus en mer Rouge après les attaques perpétrées par des rebelles houthis du Yémen. Et ceux de Maersk vont faire de même, indiquent les deux géants du transport maritime. Après ces attaques, de nombreux navires ont commencé à éviter la mer Rouge, une route commerciale majeure, afin d'emprunter le cap de Bonne-Espérance tout au sud de l'Afrique, se lançant dans un long et coûteux détour. En Serbie, des centaines de militants de l'opposition, majoritairement des étudiants, annoncent un blocage de 24 heures ce vendredi des rues de Belgrade pour protester contre ce qu'ils qualifient de fraude pendant les législatives du 17 décembre dernier, des élections remportées par la droite nationaliste. Des observateurs internationaux ont également fait état d'irrégularités lors du scrutin, notamment achat de voix et bourrage d'urne. Le quotidien américain New York Times a entamé des poursuites auprès d'un tribunal fédéral à New York, alors l'encontre d'OpenAI, créateur du logiciel ChatGPT, ainsi que de Microsoft, son principal investisseur, pour violation des droits d'auteur. Le journal estime à plusieurs milliards de dollars le préjudice subi dans les faits et d'un point de vue légal. Et voilà pour le journal. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la Minute Éco avec Mohamedou Oumfa.
En Côte d'Ivoire, le tarif de l'électricité va connaître une hausse de 10% dès le 1er janvier 2024, a annoncé mardi à Abidjan le ministre en charge de l'énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Cet ajustement ne permet pas de rétablir l'équilibre du secteur, l'ajustement réalisé n'étant que de 9,6% alors que le taux requis est de 27%, a fait savoir M. Koulibaly. À en croire le ministre, le secteur de l'électricité connaît un déséquilibre financier accentué par les effets de la pandémie de COVID-19 et de la crise en Ukraine. L'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, la SC Zone d'Égypte, a déclaré mardi avoir reçu des investissements d'une valeur de 1,85 milliard de dollars au cours des 6 derniers mois. 89 projets d'investissement ont ainsi reçu l'approbation initiale ou finale de la SD Zone dans divers domaines, dont les appareils électriques, les produits ménagers, l'extraction et la séparation des minéraux. La Tunisie et l'Arabie Saoudite s'apprêtent à signer 7 mémorandums d'entente sur des domaines comme l'environnement, le tourisme, la recherche scientifique, l'agriculture et l'emploi, a annoncé mardi à Tunis le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources Minérales. Le responsable saoudien est actuellement en Tunisie dans le cadre de la 11e session de la commission mixte tuniso-saoudienne qui vise à renforcer la coopération entre les deux pays.
À présent, un résumé de l'actualité sportive. Nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Les Léopards retenus pour la CAN 2023 sont connus.
Oui, Sébastien Desavre, sélectionneur de la RD Congo, a appelé 24 joueurs pour le déplacement en Côte d'Ivoire, même si la CAF autorise jusqu'à 27 joueurs. Sur la liste du technicien français, il n'y a qu'un seul joueur issu du championnat local, Ngoussa Badjo Siaïdi, gardien de but du tout-puissant Mazembe. Les cadres de la sélection sont présents. Comment comprendre les choix de Sébastien Desabre? Analyse sur place à Kinshasa avec Francine Koufi, journaliste sportive à Sinec TV.
Je suis d'accord à 85% avec le coach. Là où ça fauche un tout petit peu, c'est quand il choisit d'aller avec 24 joueurs en lieu et place de 27 comme l'avait accordé la CAF. Il zappe 3 joueurs au moment où dans son milieu de terrain, il laisse tomber un joueur techniquement fort, Bali Kwisha. Pourquoi ? Question mark, c'est lui le maître, je respecte sa décision. Il choisit d'aller avec 24 joueurs, parmi lesquels 20 sont inexpérimentés. Quand je dis inexpérimentés, c'est par rapport à cette compétition. 20 joueurs sont à leur première participation. Il n'y a que 4 joueurs qui ont l'expérience de cette compétition. Là, je cite Chancel Mbemba qui a sa 5e participation. Je cite Cédric Bakambu qui a sa 3e. Je cite Meshak Elia et Arthur Masuaku qui sont à leur 2e participation. On dit on ne change pas l'équipe qui gagne, je suis d'accord. Il a battu cette campagne avec pratiquement les 90% de cette équipe. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance tout en respectant ses choix.
Francine Nkoufi, journaliste sportive à Sinec TV. La République démocratique du Congo joue son premier match le 17 janvier contre la Zambie avant d'affronter le Maroc et la Tanzanie dans le groupe F basé à San Pedro.
Ici en NBA, Détroit signe un triste record.
Les Pistons ont subi face aux Nets leur 27e défaite consécutive 112-118. Après quasiment 2 mois sans victoire, un record sur une saison en NBA. S'ils perdent demain à Boston, Détroit va égaler la plus longue série de défaites de l'histoire de la NBA, celle de 28 matchs des Sixers, qui s'est étalée sur les saisons 2014-2015 et 2015-2016. De son côté, de retour de blessure, Victor Wembanyama n'a pas pu empêcher la défaite des Spurs contre le Utah Jazz, 118-130. Par contre, depuis le retour de leur meneur suspendu durant 25 rencontres, les Grizzlies de Memphis enchaînent les succès. Ja Morant a compilé 31 points pour offrir la victoire aux siens en prolongation contre la Nouvelle-Orléans, 115-116. Minnesota n'a pas su endiguer les assauts d'Oklahoma City, vainqueur 129-106.
Merci Yacouba. monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Retour en République démocratique du Congo, où plus de 25 personnes ont perdu la vie à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Les victimes ont été surprises par des glissements de terrain après des pluies diluviennes qui se sont abattues jusqu'à ce mercredi matin sur la région orientale du pays. Le reportage de Zanem Letizaidi, notre correspondant à Goma.
Plus de 20 morts, des maisons inondées et des ruelles impraticables, c'est le sombre tableau qui représente ce matin 4 des 8 quartiers de la commune de Kadutu. Ce sont les quartiers Kasali, Mosala, Nyamugo et Nkafu qui ont payé le plus lourd tribut à cette catastrophe naturelle. David Chikuru, habitant de Bukavu.
On a enregistré 11 morts sur l'avenue Kawa, au quartier Nyamugo. Dans le quartier Nyakaliba, on a enregistré 5 morts sur l'avenue Wesha dans le quartier Nkafu. On a enregistré 3 morts. De nombreux blessés sont enregistrés et sont pris en charge dans les structures sanitaires.
L'un des leaders de la nouvelle dynamique de la société civile souligne que cette catastrophe est la deuxième pour le seul mois de décembre 2023. Patrick Mongwa-Konkwa estime qu'il est temps que les autorités se saisissent de la question des glissements des terrains.
C'est inconcevable qu'on continue chaque fois à enregistrer des dégâts humains, des dégâts matériels, chaque fois qu'il y a des pluies, des nivelles qui se battent sur la ville, et que les autorités ne réfléchissent à aucune mesure. Nous sommes en train d'interpeller encore une fois les consciences afin qu'on puisse établir un plan d'assainissement de la ville de Bukavu, un plan de sécurisation, un plan de gestion des catastrophes naturelles.
Les canalisations sont pleines de déchets et le mur de certaines maisons risque de s'effondrer. Le bourgmestre de la commune de Kadutu rassure que les mesures ont été prises pour éviter de nouvelles victimes.
Les dispositions, on ne peut pas dire qu'il y en a vraiment, à part le fait qu'on a demandé aux habitants qui sont juste proches de cet endroit qui peuvent présenter des dangers d'évacuer ces lieux-là, d'aller d'abord chez les voisins, le temps qu'au niveau provincial, on puisse trouver peut-être des mécanismes de réparer peut-être les caniveaux qui sont bouchés et qui entraînent que les eaux puissent être concentrées à un endroit et ainsi créer des dégâts.
La ville de Bukavu fait face à un énorme défi de respect des normes urbaines. De nombreux experts ont souvent recommandé aux autorités de procéder à un élargissement de la ville pour limiter les dégâts environnementaux, un plan qui n'a jamais été mis en application. Zanem Letizaidi pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4 FM. Alors que nous abordons les derniers jours de ce mois de décembre, nous en profitons pour jeter un regard dans le rétroviseur. Ce mercredi, nous commençons par le Nigeria, où l'année 2023 a été marquée par la présidentielle du 25 février, qui a débouché sur la victoire de Bola Ahmed Tinubu, mais aussi par des réformes économiques initiées par le nouveau pouvoir qui affectent négativement le coût de la vie des Nigérians. Le résumé des grands événements au Nigeria dans la rétrospective de l'année qui s'achève, c'est avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Le 25 février dernier, plus de 90 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour élire leur président, député et sénateur pour les 4 prochaines années. Le 28 février, Bola Ahmed Tinubu, un ancien gouverneur de l'État de Lagos, la capitale économique du pays le plus peuplé d'Afrique, est déclaré vainqueur de la présidentielle.
That Tinubu Bola Ahmed of the APC.
Que Tinubu Bola Ahmed de l'APC ayant satisfait aux exigences de la loi est déclaré vainqueur et donc élu.
Dans son discours d'investiture, Bola Tinubu va faire une annonce qui va créer la surprise et affecter durement le pouvoir d'achat des millions de Nigériens.
Malheureusement, le budget avant ma prise de fonction ne prévoit aucune subvention au carburant. La subvention au carburant n'existe donc plus.
L'annonce a fait l'effet d'une bombe et depuis, l'inflation a pris une courbe ascendante. Le prix de l'essence est passé de 185 naira à plus de 600 naira le litre. Le président Tinubu a promis d'investir ailleurs les fonds qui étaient depuis des années destinés aux subventions sur les carburants. Beaucoup de Nigériens n'ont pas apprécié la mesure.
S'il y avait eu un projet de suppression de la subvention, ils auraient pu d'abord prendre fonction et faire des négociations à l'amiable, mais pas venir annoncer brusquement. Maintenant, les gens ont déjà payé la subvention et ils ont refusé de vendre leur carburant. Au moment même où je vous parle, il n'y a pas de carburant dans mon véhicule et je suis maintenant bloqué.
Le même débat et à chaque fois, c'est le même impact. Vous supprimez les subventions d'un côté, vous augmentez le coût de la vie de l'autre. Vous augmentez l'inflation, les emplois sont perdus et vous créez plus de pénurie dans un autre aspect de la vie. Vous reprenez à zéro.
Les réformes décidées par le président Ahmed Bola Tinubu ont poussé les syndicats à descendre dans la rue.
Cela m'affecte sérieusement parce que je suis fonctionnaire d'État après tout. Le salaire n'est même pas un sujet de conversation. Quel est le salaire ? Depuis la suppression des subventions sur le carburant, je ne peux plus conduire ma voiture parce que je n'ai pas les moyens d'acheter du carburant. Je ne peux pas.
La population qui dit attendre beaucoup de la nouvelle administration en 2024 souhaite une concrétisation des résultats des réformes promises par le président Tinubu. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sous la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sous la chaîne 555 de Canal.
En Côte d'Ivoire, l'année 2023 a été marquée par de nombreux événements, dont la mort subite de Henri Konan Bédié, l'ancien président du pays, le retour des militaires ivoiriens pris en otage au Mali et les préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les détails avec Ange Nomenyo, notre correspondant à Abidjan.
En Côte d'Ivoire, le début de l'année 2023 a été marqué par une manifestation de joie populaire. C'était le retour tant attendu des soldats ivoiriens en Côte d'Ivoire, détenus au Mali pendant près de 6 mois. Ils ont été accueillis à l'aéroport par leurs familles et les autorités ivoiriennes. Adam Kwasi, lieutenant dans l'armée ivoirienne.
Je voudrais exprimer au nom de tout le groupe notre profonde gratitude pour tout ce qui a été accompli.
Alassane Ouattara, président de la République.
Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère, quel Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Les Maliens sont nos frères.
La mort de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est l'autre grand événement qui a marqué la Côte d'Ivoire le 1er août 2023. L'ex-sphinx de Daoukro est décédé à Abidjan des suites de malaise à l'âge de 89 ans. Syriaque Yougoué, militant du PDCI.
Aujourd'hui, on m'informe que le président va mal à point, qu'il a été transféré ici à Abidjan. Donc je dis, si c'est comme ça, je vais me rendre à sa résidence. Malheureusement, à ma grande surprise, on vient d'être informé que le président a rendu l'âme. C'est vraiment un coup dur pour nous les militants et c'est vraiment une grosse perte pour la Côte d'Ivoire et pour le PDC-RDA. Donc je crois en l'avenir d'un PDC-RDA. Je pense que les dignitaires, les secrétaires exécutifs au sein du parti, avec la mort du vieux, vont fédérer leur énergie pour qu'on puisse vraiment obtenir un PDC-RDA fort et concurrent.
Le banquier Tidiane Thiam a été élu pour succéder à Henri Konan Bédié à la tête du PDCI. Pendant ce temps, sur le plan sportif, le pays s'apprête à accueillir la deuxième CAN de son histoire. Les préparatifs sont presque terminés et les Ivoiriens sont plus que jamais enthousiastes à l'idée d'accueillir ce grand événement. Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football.
Une fois qu'on aura offert cette canne, toutes les dispositions seront prises pour que la sécurité soit assurée, pour que les conditions, je dirais, de vie, de qualité soient assurées dans la ville d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y a un adage qui dit « Abidjan est doux ». C'est universel. Et donc, nous allons faire en sorte que tous les étrangers apprécient.
L'année 2023 se termine donc sur cette note d'optimisme en vue de l'organisation de la CAN. L'année 2024, pour sa part, promet d'être le sprint final pour les préparatifs de l'élection présidentielle de 2025. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan.
Sur VOA Afrique, du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp, +1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05, temps universel, au +1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous, tous les jours, sur VOA Afrique.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Gisèle Maurice. L'actualité se poursuit sur nos ondes et sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.